En tout cas, bonjour à tous. Pour moi, ça rendons grâce à Dieu, hein, pour cette liberté qu'on a de proclamer ces vérités tellement fortes. Ce privilège d'ouvrir la parole de Dieu, ne nous lassons pas de nous dire que c'est un privilège de le faire en liberté. Ce privilège de nous laisser façonner par elle, de nous laisser interpeller. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Mais cette semaine, j'ai connu de nombreux moments de découragement dans mon ministère et dans ma responsabilité. Au point où je me suis posé la question de me tenir devant vous. Bien sûr, il y a de très belles choses. Il y a des motifs de se réjouir depuis ce début d'année. Il y a des encouragements par-ci, par-là. Mais certaines situations, parfois très précises, très ponctuelles, m'ont vraiment pesé et m'ont mis ma motivation dans la responsabilité à rude épreuve. Et je trouve que c'est justement dans ce contexte, d'ailleurs de ce qu'on vient de chanter aussi, de notre mot d'ordre de cette année de marcher avec les autres que résonne, en tout cas dans mon cœur, ce mot d'ordre en fait, de marcher avec les autres. Dimanche dernier, on a simplement, brièvement, rappelé que pour marcher avec les autres, on a besoin de marcher avec Dieu. Parce que notre marche avec Dieu va nourrir notre marche avec les autres. Et notre marche avec les autres va nous pousser à retourner encore plus vers notre Dieu. Et c'est ce que j'ai vécu cette semaine. J'étais en train de marcher avec les autres. C'est pas facile. Ben, la seule solution, c'était de retourner encore plus vers Dieu. Soyons honnêtes, c'est pas toujours facile. De marcher avec les autres, c'est difficile. On l'a vu dans les psaumes aussi cet été. Ça peut être douloureux, ça peut être décourageant. Mais même si on vient à nos vies individuelles, quotidiennes, certains traversent la maladie, certains traversent des pressions financières, il y a des difficultés au travail, il y a des tensions dans la famille, il y a un rythme effréné. On a peut-être un sommeil perturbé. Ces choses nous affectent tous à un moment ou à un autre. Alors une vraie question se pose. C'est dans ces réalités-là, comment continuer à marcher avec les autres? Comment s'encourager, comme nous l'a introduit Steven, à marcher ensemble? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de chacun de nous encourager? Ou est-ce que c'est celle des responsables de groupe, ou responsable de celui qui, voilà, enfin de quelqu'un qui est proche, de quelques personnes très spirituelles? Est-ce qu'on n'est pas appelé à tous nous encourager? Donc la question qui j'aimerais nous préoccuper ce matin, c'est comment, dans notre marche avec les autres, nous pouvons nous encourager? Comment, dans notre marche avec les autres, on peut s'encourager. C'est ce que j'aimerais regarder, comment la Bible en parle, comment la parole de Dieu nous enseigne sur ce sujet-là. Et pour cela, j'aimerais simplement vous inviter à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Colossiens. C'est un passage que j'affectionne, que j'ai réalisé dans mes archives, que j'ai déjà partagé à plusieurs occasions. Dans ce texte on va lire dans un instant, Paul nous montre que le fait d'appartenir à Christ, de marcher avec Dieu, transforme notre manière de vivre et notre manière de vivre les uns avec les autres. Et va nous montrer comment nous encourager mutuellement dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Et Paul va nous inviter, et nous invite d'ailleurs dans toute cette lettre de Colossiens, à mettre Christ au centre, à mettre Dieu au centre. Et dans cette union, dans cette vie avec Dieu, à façonner nos relations et notre manière de marcher ensemble et notre manière de nous encourager. C'est ce que je vous propose ce matin en partageant simplement cet extrait de Colossiens 3, versets 12 à 17. Je vous invite vraiment à l'avoir sous les yeux. Colossiens 3, 12 à 17. C'est Paul qui parle à l'église de Colosse, il y a déjà bien, bien des siècles. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Je voudrais simplement prier encore. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est source d'enseignement. Et Seigneur, je prie de placer tes mots dans ma bouche. Seigneur, que je puisse être fidèle à ce que l'autorité de la parole dit de nous, dit de ce que nous sommes appelés à vivre. Et je prie que cela rejoigne chacun d'entre nous. Je réalise encore en simplement relisant combien ce texte a besoin d'être vécu par mon cœur. Pour cela, j'ai besoin de toi. Amen. Alors, j'aimerais relever dans ce texte quatre directions dans laquelle Paul va présenter et qui vont être utiles à l'encouragement, à nous encourager mutuellement. Et le premier élément que j'aimerais voir avec vous, Paul nous encourage à notre identité. C'est le début du verset 12. Paul commence avec ce rappel fondamental. Avant de parler de comportement, d'attitude ou de pratique, il rappelle qui nous sommes. Il rappelle notre nouvelle position, notre nouvelle identité. Notre identité en Christ, si on le connaît, si on lui appartient, est le socle de tout le reste. Sans elle, les exhortations que Paul nous laisse sont sans fondement, sans force, sans cohérence. C'est parce que nous sommes en Christ que nous pouvons vivre d'une manière nouvelle, différente d'une vie sans Dieu. Et vous l'avez dû le voir, hein, Paul utilise déjà trois mots très forts pour parler de notre identité. Le premier élément, vous êtes choisi par Dieu. Vous êtes choisi par Dieu. Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, a posé son regard sur vous, sur moi. C'est lui qui a pris l'initiative d'être en relation avec toi et avec moi. Choisi par Dieu. Je crois que ça donne à notre existence, à notre vie, une valeur éternelle lorsqu'on réalise qu'on a été choisi par Dieu. Bien sûr, on ne comprend pas toujours pourquoi, moi, maintenant, comment, et comment il l'a fait pour que un jour il s'est révélé à moi. Mais une chose est sûre, et c'est ce que Paul nous rappelle, il a choisi ceux dont le cœur s'est ouvert à sa parole. Et son choix, je pourrais dire beaucoup de choses hein, sur ce sujet-là, mais s'enracine dans la grâce. Il nous a fait cadeau, en fait. Ça ne repose pas sur mes mérites, sur une quelconque supériorité, parce qu'il s'est dit, waouh, Josué, il dépasse de tous les autres. Je lui donne ma faveur, je lui donne ma grâce, je lui donne mon pardon. Non, c'est son cadeau. Et je trouve que c'est puissamment libérateur et réjouissant de se savoir choisi par Dieu. Encourageant de savoir que quelqu'un qui nous dépasse, qui est plus grand, qui connaît tout, qui connaît les profondeurs de mon cœur, qui connaît les profondeurs de mon âme, m'a choisi, vous a choisi, vous a rencontré. Deuxième élément, hein, vous êtes saint. Alors littéralement, ça veut dire vous avez été mis à part. En fait, Dieu nous a retirés, et là je résume, il nous a retirés d'une vie qui était marquée sans Dieu, on vivait sans Dieu, En fait, quelque part, le péché, si vous voulez une définition, le péché, c'est simplement une vie qui fait comme bon lui semble, sans tenir compte de Dieu. Dieu nous a tirés de là pour une vie qui en est digne avec lui. Vous êtes saints. C'est ça ce que ça veut dire. Je vous ai pris et je vous ai fait de vous un peuple, de racheter un peuple qui est mis à part. Peut-être qu'aujourd'hui on se sent, je le disais tout à l'heure, découragé, faible, inutile, découragé, pas du tout comme les choses devraient être et comme on les lit parfois dans la parole de Dieu, mais Dieu lui a décidé que votre vie a un but, lui appartenir et révéler sa gloire. Alors aujourd'hui, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais la parole de Dieu nous dit, vous avez été mis à part, vous êtes saints. Alors vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas toutes ces choses-là encore dans votre vie, mais c'est sûr, elles s'accompliront. C'est la position maintenant de tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Vous êtes saints. Il y a une alliance indéchirable avec Christ. Vous êtes mis à part. Et enfin, vous êtes bien-aimés. Pas besoin de dire beaucoup de choses, vous êtes bien-aimés. Vous êtes aimé de Dieu. Vous n'êtes pas l'oublié. Vous n'êtes pas le dernier de la classe. Vous n'êtes pas celui qui est invisible. Dieu vous aime personnellement, intensément. Amen. C'est vrai, aux yeux des autres, on peut parfois sembler insignifiant, inutile. Pas utile de vous inviter, mais aux yeux de Dieu, vous êtes précieux, irremplaçable, unique, membre de son corps, quand on l'avait vu dans Corinthiens, aimé de Dieu, au point où quoi, on l'a chanté, il s'est livré pour nous, au point où il est venu, il s'est abaissé, il a choisi de venir auprès de nous, il a choisi de toucher notre cœur. Ça, c'est trois éléments qui caractérisent notre identité. Choisi, saint, bien-aimé. Mais si vous écoutez ou regardez la suite du texte, vous voyez que Paul ne va pas s'arrêter là. Fin du verset 13, il rappelle quoi ? Que nous sommes pardonnés par Christ. À la croix, Jésus a payé nos fautes, notre péché, notre rébellion. Il n'y a plus le pouvoir. Il a pardonné nos fautes. Et sa résurrection confirme que nous sommes pardonnés, que son pardon est certain. Il est plein de grâce. Rappelez-vous, ce psaume 103 qu'on avait évoqué, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. » Voilà le Dieu qu'on a. Il nous pardonne parfaitement. Et c'est une assurance ferme. Ça, c'est notre identité. Je suis pardonné. J'ai pas une culpabilité à porter. Si j'ai demandé pardon à Dieu, il me libère. Au verset 15, il poursuit Paul. Il va souligner qu'en conséquence, on a la paix de Christ. On n'a pas la paix des hommes, mais on a la paix de Christ. Plus de conflit entre Dieu et moi. Moi, je trouve que si on prend le temps de méditer sur ça, la paix avec Dieu. Verset 16, il va plus loin et dit que la parole de Christ habite en vous. La parole de Dieu habite en vous. Bien évidemment, par le Saint-Esprit aussi. C'est une parole qui est vivante, qui est agissante. Et c'est vrai quand on la médite, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais elle nous impacte. Et tout cela fait partie de sa grâce, de cette nouvelle identité. Où nous sommes revêtus, et bien évidemment, à la fin, si vous voulez encore relever, mais il y a cette relation se vit avec Dieu, le Père. Dieu est un Père pour nous, un Père bienfaisant. Paul est en train d'encourager les Colossiens à, et nous, par ricochet aujourd'hui, à voir notre identité, à nous encourager dans notre identité, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est une constante dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, bien évidemment. Écoutez par exemple comment Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés. On lit ça dans 1 Pierre 2, verset 9. « Vous au contraire, vous êtes quoi ? Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Paul, et ici Pierre, encourage en nous rappelant qu'est-ce qu'on est devant Dieu. Et là, simplement tout ce que je viens de lister. Voyez-vous ? Pierre ne commence pas, ni Paul ne commence pas à parler de souffrance ou de faiblesse, mais il leur rappelle qui ils sont. Et je crois que parfois, on oublie. Et notre réflexe pour encourager à marcher avec les autres serait de nous encourager qui nous sommes, maintenant, avec Dieu. Et c'est là notre responsabilité les uns envers les autres. On veut marcher les uns avec les autres, alors encourageons-nous à voir qui nous sommes maintenant devant Dieu. À chaque rencontre, à chaque échange qu'on devrait avoir, on devrait se rappeler mutuellement, si c'est nécessaire, tu es choisi de Dieu, tu es mis à part, tu es un bien-aimé de toute éternité, tu es pardonné, tu es réconcilié, tu es en paix, tu as la parole de Dieu accessible, etc. Et cela devrait puiser notre espérance. Cela devrait nous aider à nous encourager réciproquement. Hier soir, je suis sorti courir. J'en avais besoin. J'avais le t-shirt du dernier congrès de Pâques. Alors que je méditais sur cette exhortation de Paul, j'ai réalisé que sur mon t-shirt, il y avait écrit « vivant ». Donc c'est le thème du congrès de Pâques, c'était « vivant ». Et c'était écrit « passer des ténèbres à la lumière ». Ce n'est pas juste un slogan sympa. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis vivant. Voilà une vérité profonde de mon identité, de ce que je suis maintenant, aujourd'hui, en Christ. Et je crois que c'est encourageant de nous le dire et de nous le rappeler et de le saisir par la foi. Alors, frères et sœurs, encourageons-nous à nous rappeler notre identité nouvelle, parce que c'est de là que prend source tout le reste. Alors, avant de passer au point 2, j'aimerais vous proposer de passer un moment dans la prière. Dans la prière de reconnaissance, que plusieurs d'entre nous puissent exprimer par des mots simples notre gratitude de savoir ce que nous sommes en Christ, de cette nouvelle identité en Christ. Je vous invite vraiment à prier. Puisque nous savons que nous sommes en Christ choisis, saints, bien-aimés et pardonnés, Paul nous montre maintenant comment cette identité s'exprime concrètement. Et c'est le deuxième élément que je voudrais relever. Encourageons-nous par nos attitudes à l'image de celle de Christ. Paul nous dit « revêtez-vous ». C'est l'image d'un vêtement qu'on est en train de mettre comme on met une tenue chaque matin. Nous sommes invités, Paul nous invite à revêtir un certain nombre d'attitudes. Et ces attitudes, quand vous les regardez, elles impactent notre relation avec les autres, notre marche avec les autres. Voici ce que Paul nous propose. Je vais simplement les lister. Hein. Il nous propose que nous nous revêtions de compassion. Alors littéralement, c'est même qu'une compassion qui vient des entrailles, du cœur. Il y a une ardente compassion. Il nous demande de nous revêtir de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il évoque de se supporter les uns les autres. Au verset 13, il parle de pardon. Et par-dessus tout, de nous revêtir d'un lien d'amour, de la paix qui provient d'un fond du cœur, et enfin de la reconnaissance. Waouh ! Tout ça, ce sont des attitudes que nous sommes appelés à nous revêtir. Je me suis posé la question en préparant, est-ce qu'il y a un mot ou une attitude que je ne comprends pas ? Je crois qu'on trouverait facilement une définition pour chacune. Le problème, c'est pas tant de comprendre ce que nous sommes appelés aujourd'hui à vivre avec Dieu. Le problème, c'est qu'on a du mal à regarder les autres avec un tel état d'esprit. Paul n'est pas en train de nous donner une liste de vertus morales ou que sais-je pour paraître gentil, mais il nous montre comment notre identité nouvelle en Christ doit découler et va transformer nos relations avec les autres. Notre marche avec les autres va être transformée. Parce que nous sommes appelés à agir avec bonté, miséricorde, pardon, etc. Mais le problème, c'est souvent que j'attends de la bonté, j'attends du pardon, j'attends de la grâce de l'autre. J'attends cette attitude de l'autre, du vis-à-vis, plutôt que de moi. Plutôt que de regarder à mon propre cœur, à mes propres habitudes, de parler à mes propres comportements. Et Paul, pour que ce soit clair, quelques lignes plus haut, il l'a dit au verset 8, hein, pour ceux qui ont leur Bible, Paul a rappelé qu'il fallait laisser de côté, de renoncer à quoi ? À la colère, à la fureur, à la méchanceté, bon, ok, à la calomnie, hein, et aux grossièretés, etc. Ça, c'est des attitudes qui détruisent la vie de l'Église, qui détruisent les relations les uns envers les autres. Mais quand elles sont remplacées par la bonté, par la patience, par un pardon, comme Christ nous a pardonné, c'est profondément encourageant dans nos relations. Cela devient un puissant moyen d'encouragement fraternel. Je vous rappelle à ceux qui étaient là l'année dernière avec le Corinthien, l'église de Corinthe. Franchement, ce n'était pas le modèle d'église dans lequel on aimerait vivre. Il y a des disputes, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil spirituel, il y a de l'égoïsme, il y avait des divisions, il y avait des comparaisons. Moi, je suis plus spirituel que toi. Et comment Paul a commencé sa lettre ? Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Je rends continuellement grâce à votre sujet. Il a choisi d'encourager, par des attitudes de son identité, d'avoir de la bonté, de la grâce. Il a vu cette église avec grâce comme Dieu la voit. Par son attitude de reconnaissance, son regard de foi, Paul devient pour cette église un facteur d'encouragement. Pour une église qui est difficile. Je me suis dit, si Paul avait commencé sa lettre comme moi je l'aurais peut-être fait, franchement, les gars, vous êtes ingérables. Vous n'écoutez rien, vous vous disputez, vous querellez, vous vous comparez, changez tout de suite ou je ne viens pas vous voir. Il aurait pu faire cela. Maintenant, il commence par exprimer de la gratitude, de la bonté, de l'amour pour cette église. Quelle leçon ! Même quand les autres nous pèsent, nous devrions toujours choisir d'avoir une attitude qui encourage plutôt que décourage. Je me suis posé la question, mes attitudes, mes habitudes de parole, mes réactions sont-elles un facteur d'encouragement ou de découragement pour les autres ? Bien évidemment dans l'église, mais aussi au travail, dans ma famille, dans mon voisinage. Est-ce que l'on reconnaît chez moi quelqu'un qui s'exprime avec douceur, avec patience, qui prend le temps ? Or, bien sûr, je dis pas, on a des tempéraments différents, on a des couleurs personnelles, mais quelle que soit notre personnalité, nos attitudes auront un impact sur les autres, sur les gens autour de nous. Soit elles vont encourager, soit elles vont décourager. Et c'est précisément lorsqu'on marche avec les autres, quand on sert ensemble, que cela se voit. Lorsqu'on monte un chapiteau, lorsqu'on prépare une activité ensemble, lorsqu'on prépare un repas communautaire ensemble, lorsque nous méditons la parole ensemble, lorsqu'on prépare la louange ensemble pour un dimanche matin, lorsqu'on sert dans une action de solidarité, c'est là que nos attitudes se révèlent. Elles ne concernent pas que le pasteur ou le responsable ou l'ancien, mais chacun d'entre nous. Si quelqu'un murmure ou critique, cela finit par transparaître et pourrir l'ambiance. Mais si nous cultivons la patience, la douceur, la bonté, l'amour, etc., cela diffuse, comme nous dit la parole, un parfum de Christ qui attire, qui encourage, qui fortifie. Alors mes amis, souvenons-nous, nous nous encourageons mutuellement par nos attitudes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à honorer notre Sauveur dans nos relations en revêtant la compassion, en revêtant l'humilité, en revêtant d'amour, de paix, de reconnaissance, etc. Imaginez avec moi, nous sommes un samedi matin, on prépare la fête de l'église, allez, Noël festif, en décembre. Certains déplacent des tables, d'autres s'occupent de la cuisine, d'autres encore accrochent des décorations. L'ambiance est bonne, mais c'est un peu tendu, il fait chaud, les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient, la fatigue se sent. Chacun a sa petite idée de la façon dont on devrait faire pour préparer les tables. Il suffit de 3 personnes pour avoir 4 avis différents sur le pliage des serviettes. Il suffirait d'une remarque un peu sèche, d'une critique maladroite pour que tout bascule, que l'ambiance se plombe, l'envie retombe. Mais il suffirait peut-être d'un petit sourire, d'un mot patient, d'un geste de service silencieux pour que tout à coup l'ambiance change et qu'on retrouve chacun son énergie de servir. Ce jour-là, personne n'a prêché la parole, mais quelqu'un a simplement encouragé par son attitude, et ça a rejailli sur l'ensemble. Je disais, ça vaut pour l'Église, ça vaut bien sûr dans nos familles, tout endroit où Dieu nous place, d'être un parfum de bonne odeur. Nous pouvons être un facteur puissant d'encouragement par nos attitudes. Mais Paul poursuit en troisième élément, on peut s'encourager par la parole de Christ, c'est le verset 16. Paul continue son exhortation ainsi, je relis, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Souvent on cite, et je cite avec joie, ce verset pour réfléchir au rôle du chant, de la louange dans l'Église, et c'est très bien. Mais le cœur de ce message et de ce passage, de ce verset, c'est l'importance de la parole de Christ qui demeure au milieu de son peuple. Là, il y a le mot qui réside. Il y a l'idée vraiment se sentir bien à la maison. Souvent, on a expérimenté la grâce et la paix de Christ, alors sa parole se sentira à la maison dans notre cœur. La parole est un puissant facteur d'encouragement dans nos relations fraternelles. Et Paul décrit plusieurs moyens, il nous parle du chant, il parle, cette parole nous enseigne mutuellement, elle nous avertit avec amour, on chante ensemble les vérités de l'Évangile, les vérités de notre identité. Oui, un chant peut être un puissant facteur d'encouragement. Un chant, bien sûr, inspiré de la parole de Dieu. Quand nous chantons, on ne fait pas que simplement adorer Dieu. Quand on chante, on proclame des vérités, on proclame des promesses, on proclame son salut. On proclame plein de choses comme on l'a fait ce matin et des choses qui peuvent rassurer nos cœurs fatigués et peut-être parfois abattus. Dans la Bible, par exemple, Jésus, il a chanté lorsqu'il partageait le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, juste avant d'aller à la croix. On se rappelle de l'épisode Paul et Silas en prison. Ils ont chanté et ça a été un puissant témoignage dans le cachot. Alors, ils ont peut-être chanté pour s'encourager, mais ça leur a été bénéfique pour le témoignage de l'Évangile. On l'a vu cet été en parcourant quelques psaumes. Ce sont des chants qui sont édifiants, qui nous encouragent. Nos hymnes, nos cantiques ne sont pas juste des chants religieux. Elles sont un moyen d'encouragement réciproque, enraciné dans la parole. Pour être concret, imaginez quelqu'un, peut-être ça a été le cas, ce matin, ça a été mon cas, découragé, le cœur lourd, peut-être à cause d'un échec ou d'une situation difficile, à cause d'un péché. Et si l'assemblée entonne un chant qui proclame que Jésus a pardonné au prix de sa vie, sans que personne n'ait rien dit, nous, ensemble, en chantant, on va encourager à déposer notre fardeau à Christ et à se souvenir que, oui, c'est pardonné, notre péché est pardonné, il est réglé. Ou peut-être vous êtes rentré et vous doutez de votre valeur, du sens de votre vie. Et voilà qu'on chante ensemble que notre vie a été rachetée au prix du Fils du Roi des Rois. Quelle déclaration, quelle source d'encouragement profond. Parfois, ce n'est pas juste le sermon, c'est pas simplement mais c'est la parole qui a été chantée, qui vient fonder, qui vient toucher un cœur qui a été brisé ou fatigué. J'ouvre une parenthèse. Priez pour nous, dans l'Église, on réfléchit en ce moment, à choisir nos chants avec soin et on va y travailler. On a besoin de la sagesse. Parce qu'on veut des chants qui soient quoi ? Fondés sur la parole de Dieu. Pas juste sur des sentiments qui ne seraient, mais fondés sur les vérités de qui est Dieu, de ce qu'il fait, de son évangile, de cette bonne nouvelle, de cette espérance, etc. Et j'en passe, je ferme la parenthèse. Encourager la parole ne se limite pas juste aux chants, bien évidemment. On a peut-être déjà tous vécu un verset partagé dans une discussion, une lecture qui nous a fait du bien, que l'on transmet et qui nous a touchés. Ça peut être une phrase envoyée. On n'a pas besoin de longs discours. La parole suffit à elle-même pour nous encourager. Et je peux en témoigner moi-même. Cette semaine, je le disais, j'étais découragé à plusieurs reprises et j'ai reçu un verset partagé dans une vidéo. Je suis newsletter, il y avait une petite vidéo d'encouragement à prier. Et il y avait un verset. C'était simple, un verset connu. Mais ce verset m'a profondément touché à ce moment-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le temps de le noter en haut de mon agenda du jour dans lequel on était, et j'y suis revenu plusieurs fois dans la journée quand mes pensées étaient en train de me tirailler. Mais non, mais je me suis dit, laisse tout tomber. Chaque fois, la parole m'a redonné une nouvelle perspective, de la force, m'a réorienté vers Christ. J'imagine que vous avez aussi vécu ce type d'expérience. C'est pas un grand enseignement, c'est pas, mais voilà, cette parole vivante qui touche et qui vient transpercer les cœurs, qui est accueillie au bon moment. Voilà pourquoi marcher avec les autres, c'est prendre aussi en sérieux cette responsabilité d'être un facteur d'encouragement par la parole. Nous sommes responsables de partager la parole. Elle est suffisante, elle est centrale. Et nous sommes appelés à la faire habiter parmi nous. Et elle deviendra une source de profondément d'encouragement, un culte dans le quotidien. Mais je vous prends peut-être de court, mais est-ce que vous avez été encouragé par la parole cette semaine ? Je vois quelques têtes qui haussent. Dans notre marche avec les autres, nous avons une responsabilité de nous encourager par la parole. Alors je ne dis pas qu'il faut envoyer, tiens, j'ai pensé ce verset pour toi. Un petit texto, c'est pas ça. Peut-être vous dites, ouais, ce verset m'a touché aujourd'hui et j'ai juste envie de le partager. Je dis, écoute, regarde, moi j'ai été touché, ça m'a encouragé, ça m'a humilié, ou ça m'a. Voilà, je te l'envoie aussi, simplement, voilà, on s'encourage par la parole. Et enfin, Paul termine la boucle, il nous encourage par toute notre vie, c'est le verset 17, hein. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. On voit vraiment que c'est pas juste quelques domaines, c'est pas que quelques attitudes, c'est toute notre vie, toute notre existence est appelée à refléter Christ. Tout en moi lui appartient. Tout ce que je dis, tout ce que je fais doit être associé au nom de Jésus-Christ. Par nos paroles et nos actes, nous devrions glorifier son nom. J'ai un exemple biblique qui m'est venu dans Daniel et ses amis. Vous vous rappelez le livre de Daniel ? 4 jeunes hommes déportés, loin de chez eux, loin de leur pays, de leur famille. Ils auraient pu céder, se fondre dans la culture de l'Empire. Mais ensemble, ils ont choisi de rester dans leur attitude fidèle à Dieu. Ils ont refusé de manger certains aliments sacrifiés aux idoles. Ils ont porté leur fardeau mutuellement dans la prière. On voit qu'ils se sont encouragés à rester fermes, quitte à risquer leur vie. Ils étaient ensemble par leur attitude de vie, leur vie entière, leur manière d'être, leur fidélité, leur courage est devenu un encouragement réciproque et un témoignage puissant qui reste pour nous aujourd'hui, puisque plusieurs siècles après, on parle de ces hommes dans ce grand Babylone qui était un empire terrible. J'ai pensé aussi à Johnny, Erickson Tada, je ne sais pas si vous connaissez, cette femme qui à 18 ans est devenue paralysée. Je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais je crois les 70 ans passés. Elle a continué à servir, bien avec des luttes, bien évidemment, à servir le Seigneur avec foi. Et un jour, après des attentats aux États-Unis, à Oklahoma City, elle est entrée dans un centre d'accueil où voilà, on accueillait toutes les familles qui cherchaient de l'aide, et, voilà, parce qu'il y avait énormément de monde qui avait été tué, il y avait des gens sans nouvelles de leur famille. Il y a une responsable de la Croix-Rouge l'a accueillie en s'exclamant « Mon Dieu, quel encouragement de vous voir parmi nous !» Pourquoi ? Non pas parce qu'elle était connue, mais parce que sa simple présence d'elle en fauteuil roulant, elle est paralysée, elle a complètement peut que bouger un peu les lèvres, sa simple présence ici dans un moment terrible montrait qu'il y avait une source d'espérance pour ceux qui souffraient. Sa vie marquée par une vie avec Dieu, par la reconnaissance malgré l'épreuve, encourager les personnes autour d'elle simplement par sa fidélité, par ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Voici ce que Paul nous met devant nous. Nos paroles, nos choix, nos engagements, notre travail, nos loisirs, notre manière d'être, tout devrait être un témoignage pour encourager à marcher avec les autres. Une vie vécue dans la reconnaissance, dans la dépendance à Dieu devient contagieuse et elle fortifie les autres qui sont autour de nous. Alors posons-nous cette question, est-ce que ma manière de vivre reflète Christ ? Est-ce que ma manière de vivre quotidiennement est un encouragement pour ceux qui sont autour de moi ? Un parfum de bonne odeur ? Alors, je ne dis pas que ça doit être toujours joyeux, mais est-ce que ma manière d'être, de faire, de compter sur le Seigneur est puissamment encourageant ? J'aimerais conclure. Wendy m'a donné plein de temps. Vos enfants, ça ne sert à rien de vous précipiter pour les chercher. Je conclue simplement. Nous voyons ensemble que Paul, dans cet extrait, nous invite à nous encourager les uns les autres, à marcher avec les autres. Premièrement, en nous rappelant notre identité. On est appelé à nous rappeler qui nous sommes en Dieu. À exprimer cette identité par nos attitudes, par des comportements, par des paroles. Il demande à ce que cette parole de Dieu vienne vraiment nous habiter et vienne vraiment faire partie de notre vie comme un facteur d'encouragement. Et enfin, c'est toute notre vie qui doit transpirer de cette vie avec Dieu. Je résume tout ça. Hein. La grande leçon que Paul dans ce texte, c'est marcher avec les autres, c'est choisir d'être des personnes d'encouragement, de l'identité en Christ jusqu'à chacune de nos paroles et de nos actes. Marcher avec les autres, nous sommes appelés à être des facteurs d'encouragement, des personnes d'encouragement, par notre identité nouvelle jusqu'à nos paroles et nos actes. Alors maintenant, concrètement, comment on fait ? Parce que l'encouragement, c'est pas juste quelques paroles. Une belle idée. Mais c'est vraiment, on voit une pratique quotidienne à cultiver. Dans la dépendance de Jésus-Christ. On est unis à Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On a accès à toutes les ressources nécessaires pour le vivre. Alors je le disais, hein, c'est le mot d'ordre pour cette année, de marcher avec les autres. C'est un challenge, hein. Pour nous tous, on a besoin. C'est la parole de Dieu qui le dit, hein, on a besoin des uns et des autres pour marcher avec Dieu. Et pas seulement en temps de crise, mais dans la vie de tous les jours. Alors posons-nous, qui dans mon entourage a besoin d'un mot d'encouragement, un mot d'amour, une affection ? Dans l'Église, qui aurait besoin d'un rappel simple de son identité en Christ, de ce qu'il est en Jésus-Christ ? Qui pourrait être encouragé ou fortifié si je lui exprimais de la gratitude ou de la reconnaissance ou un signe d'intérêt ou une prière ? Peut-être c'est me dire, mais qui a besoin que je lui pardonne ? Parce qu'il m'a fait du tort, mais je veux lui pardonner. Parmi vos collègues, vos voisins, qui pourriez-vous encourager par une attention simplement particulière ? Là, on est dans le défi, hein. J'aimerais vous encourager cette semaine, parce qu'on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine, de marcher avec les autres. Et j'aimerais vous encourager vraiment à écrire le nom d'un ou deux personnes, de plusieurs personnes peut-être, et trouver quelque chose de précis où vous voulez manifester votre intérêt, votre encouragement envers cette personne. Ça peut être un appel, une visite, un message, un mot écrit, une carte, que sais-je, une aide matérielle. Encourageons-nous intentionnellement. Le problème, c'est que souvent, on attend que les autres nous encouragent. Ah, si seulement j'étais visité. Mais je crois que la parole de Dieu nous encourage à nous-mêmes nous mettre en œuvre. Imaginez les effets si chacun d'entre nous mettions ça en pratique cette semaine. Cette dynamique de marcher avec les autres prendrait toute cette saveur. Encourager, c'est aussi reconnaître, et merci pour ceux qui sont à la technique, merci pour ceux qui ont assumé la louange ce matin. Merci pour Steven qui a préparé sa présidence. Merci pour Wendy qui a préparé toute la semaine. Et puis toutes les personnes, les petites mains qui ont aidé. Mais si on exprimait notre gratitude pour ce que Dieu fait au travers des uns et des autres dans notre vie. C'est comme les aînés le disent souvent. Ah, comme on est encouragé de voir la relève. Comme on est encouragé des nouvelles personnes qui font ce service. N'oublions pas qu'on a tant et tant de lieux, d'occasions de pouvoir nous encourager. Que ce soit en petit groupe, dans une amitié un à un, entre hommes, entre femmes. Dans les groupes de maison, dans les réunions de prière, etc. Ça peut être dans les repas fraternels qu'on partage, dans les invitations les uns avec les autres. Ça peut être des moments, des lieux forts d'encouragement mutuel. Et c'est ce que Paul nous propose dans cet encouragement à marcher les uns avec les autres. Alors n'attendons pas que les autres nous encouragent les premiers, mais soyons ceux qui font, qui prenons l'initiative. Engageons-nous, marchons avec les autres. Amen.